Je vous transmets bien sûr les salutations de votre église mère, rue du Moniteur. Je vois Christian dans son petit coin. Je le cherchais ailleurs, mais j'en connais plusieurs parmi vous. J'ai participé dans les années 70 à la campagne d'évangélisation de la mission évangélique belge qui a préparé la fondation de l'église de Woluwe. Nous étions avec une équipe, avec des Américains et des Belges, avec Johan Lucas, directeur de la mission évangélique belge. Nous dormions rue du Moniteur, par terre, enfin sur des petits matelas. On a passé de bons moments avec les équipiers à faire du porte-à-porte ici, avenue de Brockville et ailleurs, et nous avions participer aussi avec le couple Holberg, des missionnaires américains, à des réunions de prière et d'études bibliques préparatoires à cette église de Woluwe. Et après tant d'années, on voit que le Seigneur a été fidèle et qu'il vous a béni. Le paysage de nos églises a changé pas mal, aussi à la rue du Moniteur. Il est fluctuant. Paul Évry tient régulièrement, a tenu pendant plusieurs dimanches étalés sur, je pense, 4 années, a constaté que sur 100 personnes qui étaient dans l'église il y a 4 ans, il n'y en a que 50 qui sont encore parmi nous. Et donc il y a beaucoup d'entrées, de sorties, d'allées et venues, et ce qui fait que parfois on est obligé d'expliquer des choses qui allaient de soi. Donner des informations, par exemple sur la convention. Il faut faire de la pédagogie pour dire ce qu'est la convention. Donc je me réjouis d'être avec vous. C'est un dimanche peut-être dont je me souviendrai. J'espère que vous aussi, à cause de la parole du Seigneur, non pas à cause de ma présence, mais parce que je suis passé tout à l'heure près de Delta, le nouvel hôpital, parce que mon fils Nicolas et ma belle-fille y sont pour le moment. Donc, vous êtes les premiers à savoir que peut-être la naissance d'un second petit enfant est imminente. Oui, c'est un peu particulier. La petite fille dormait chez nous cette nuit, mais bon, nous attendons cet heureux événement, bien que la vie n'apporte pas toujours les joies que l'on en attend. Un heureux événement, je crois que c'était Françoise Hardy qui, dans une émission sur une chaîne française, disait on voit la venue d'un enfant comme un événement joyeux. Mais souvent, c'est le début d'une vie avec des difficultés. La vie n'apporte pas que des joies. Et je trouvais que pour quelqu'un qui n'est pas familier de nos églises, qui peut-être n'est pas chrétien, c'était une analyse quand même assez juste et qui nous ramène à des réalités, ce qui montre que l'existence n'est pas un fleuve tranquille comme le disait une expression tirée d'un film bien connu. J'avais dit à Steve que je préparais un schéma que j'aurais voulu vous projeter, mais je n'ai pas eu le loisir de le faire. J'ai eu pas mal de choses cette semaine encore, et j'ai plutôt dessiné sur une feuille, mais je vous expliquerai ce qu'il y a sur la feuille parce que vous serez incapable de le lire. Et comme mon fils Pierre est avec Steve au camp, il n'a pas pu le faire pour moi. J'aurais pu le faire quand même, mais il avait déjà tellement de choses à préparer. Le thème de ce matin, c'est la bonté de Dieu. Est-ce que vous avez goûté que Dieu est bon? Et je me suis dit, en introduction, peut-être une feuille avec quelques sphères. La première sphère, c'est celle qui est au centre, c'est moi. C'est important, n'est-ce pas? Je suis important, c'est moi. Avec mes joies, mes peines, avec mes déceptions, aussi avec mes préoccupations et avec ce que j'ai comme objectif dans la vie. Et puis j'ai mis au-dessus, je n'ai pas mis un ordre de grandeur, je n'ai pas mis Dieu ici, et j'ai suivi un peu ma pensée, et j'ai dit mes proches, mes enfants, ma famille, mon couple, mes amis, qui m'apporte aussi des joies, mais aussi des sujets de préoccupation, et parfois des sujets de tristesse récurrents, qui reviennent régulièrement et qui nous pèsent. Aussi ma santé. Écoutez un peu dans l'église ou dans les églises, et dans le milieu professionnel, et chez vos voisins peut-être, la santé. Si on n'a pas la santé, on est quelque part handicapé. On a moins d'énergie. Et ça nous préoccupe. On est diminué et parfois on s'en trouve isolé. Parce qu'on ne peut plus participer au culte, parce qu'on est peut-être hospitalisé, parce qu'on a moins de force. Il y a aussi l'âge qui joue là-dedans. Et puis il y a, pour ceux qui travaillent, mon travail. Peut-être faudrait-il penser le travail que Dieu m'a donné, ce qu'il me permet de recevoir, les relations dans le travail. Je ne sais pas quelles sont les relations que vous avez dans votre milieu professionnel, mais parfois c'est terrible. J'ai apporté deux prédications sur le domaine du travail à l'église, chez nous, et j'avais trouvé comme exemple aussi sur la dureté du travail l'exemple d'un homme qui travaillait comme manutentionnaire chez Lidl à Aix-en-Provence, dans un entrepôt. Et il avait alerté son manager pour dire « Je n'en peux plus. Je vais craquer. » On n'a pas écouté. Il s'est suicidé. Cet été, c'est déjà il y a quelques années, c'est venu en procès, Lidl a été condamné, mais n'a pas changé sa politique. Mais j'ai revu cette histoire à la télévision cet été, j'étais en France, et on a vu le manager qui était interrogé, qui avait reçu pour ordre de mettre cet homme dehors par n'importe quel moyen. Et il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne voulait pas le faire. Et cet homme a été mis dehors aussi. Le travail peut être une source de gros soucis, de difficultés. C'est pesant, mais il peut aussi être un sujet d'épanouissement et de joie. Je n'ai pas à me plaindre de mon travail. D'ailleurs, j'ai 65 ans et je travaille encore. Donc, je suis encore heureux dans mon travail. Donc, le travail aussi procure des satisfactions. Mais il faut faire la balance des choses. Vous n'entendez parler aujourd'hui que de pression, de burn-out et de choses comme ça. Et puis, l'Église. Pourquoi l'Église ? Ben, parce que l'Église est une source de joie, une source de bénédiction. C'est une des sphères autour de moi. Et je peux venir à l'église avec joie, libéré des soucis de la semaine, pour me réjouir, comme Samuel le disait ce matin, pour être béni ensemble. Mais je peux aussi venir à l'église parce que j'ai quelques soucis avec l'une ou l'autre personne. Parce que j'ai quitté mon église, je vais dans une autre église. Parce que je pense que là, au moins, il n'y aura pas de soucis. Et puis là, je retrouve aussi, parfois, les mêmes soucis que j'avais dans l'autre église d'où je viens. C'est assez réaliste. Et parfois, il y a des choses qui nous pèsent, n'est-ce pas ? Et le prédicateur qui était à notre week-end d'église en septembre parlait de ses fardeaux, de son sac à dos qu'il porte. Et il disait, parfois j'ai besoin de sortir, d'aller marcher un peu, de méditer, de prier, et de me reposer sur Dieu pour qu'il me décharge des soucis. Et puis je reviens et je peux repartir. Et je pense que dans tous ces domaines, nous avons besoin aussi de nous reposer sur Dieu et de voir qu'au travers de tous ces domaines, et peut-être d'un domaine supplémentaire que j'ai ajouté sans y mettre nécessairement des choses bien précises, mais que vous pouvez remplir avec des choses que je n'ai pas citées, où vous vous trouvez au centre de toute cette question, de notre vie, tout simplement. Et en étant au centre de la question, nous devons réfléchir qui est au centre de notre vie, même si toutes ces choses gravitent autour de nous. Quelque part, nous avons besoin, dans un monde aussi peu paisible et peu rassurant, nous avons besoin de nous accrocher à Dieu. Et c'est un peu ce que dit le psalmiste, n'est-ce pas ? Nous allons quand même, si vous avez vos Bibles, vous allez avoir la joie de l'ouvrir. Le psaume 73, nous avons là quelques éléments importants qui nous aident à regarder ces réalités en face et de recevoir de Dieu aussi quelque éclairage sur la manière dont nous devons appréhender l'existence. Psaume 73, les versets 12 à 21. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot. Je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête, comme un animal dont la pensée vers Dieu n'est pas possible. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Prenons-nous du plaisir en Dieu, ou associons-nous notre plaisir aux mêmes critères que le monde qui nous entoure. Même si nous partageons légitimement bien des choses avec les incroyants dans le monde, mais notre perspective est tout autre. Et dans cette partie de psaume, nous trouvons des choses peut-être un peu choquantes lorsqu'il dit « Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés », il n'est pas dans un moment de grande joie ou de félicité. « J'étais idiot, je ne comprenais rien. » Est-ce que nous comprenons la parole de Dieu, ce qu'elle veut nous transmettre ? Pour rester proche du Seigneur, comme il dit, c'est Dieu qui l'a empoigné. C'est Dieu qui est venu vers lui, qui l'a saisi et qui le conduit par son conseil. Nous pouvons penser aux proverbes. Si vous avez déjà parcouru le livre des proverbes, vous verrez tellement d'enseignements très concrets et très pratiques sur des situations que l'on peut rapprocher de situations d'aujourd'hui. C'est d'une actualité incroyable. Et ça nous évite des pièges parfois. Ça nous montre là où il ne faut pas mettre le pied. Je suis quelqu'un d'assez prudent. Peut-être pas assez en voiture, mais on est fort contraint aujourd'hui en automobile, n'est-ce pas ? Je ne veux pas dire que j'ai des accidents. J'en ai eu par le passé. J'étais plus jeune. Mais il faut être prudent dans cette vie, dans la démarche qui est la nôtre, pour ne pas mettre nos pieds là où il ne faut pas. Le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu, est important. Tous les jours, pas seulement le dimanche. Et mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Est-ce que vous êtes fatigué parfois ? On dit que c'est un mal du siècle. Ça va, oui, oh, ça pourrait aller mieux, n'est-ce pas ? Et puis je suis tellement fatigué. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Combien de gens ne trouvent pas le sommeil ? J'ai vu récemment sur Internet une liste de pratiques que l'on enseigne aux militaires pour trouver rapidement le sommeil, parce que les heures de sommeil sont comptées pour les militaires. Et ça, je ne sais pas de compter les moutons, mais Je ne vous explique pas, ce n'est pas important aujourd'hui. Mais est-ce que vous vous couchez tranquillement? Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que Dieu est le rocher de votre vie? Est-ce que vous êtes tranquille? Ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Nous savons que tous les psaumes ne disent pas cela. Dans certains psaumes, on dit, mais Seigneur, regarde un peu l'infidèle comme il prospère, comme il a l'air de bien vivre, alors que le juste, lui, connaît des difficultés, des douleurs. Oui, c'est vrai, en apparence, ces choses sont vraies. Peut-être que dans notre quartier où nous habitons, nous avons l'impression de voir des gens qui vivent normalement, très bien, ils ne sont pas chrétiens, ils ne vont pas au culte, ils ont du temps devant eux, ils s'occupent de leur jardin, ils s'occupent de leur hobby. J'étais étonné de voir en venant tout à l'heure, en passant près de l'ancien hippodrome de Boisfort, de voir une sorte d'un petit embouteillage. Et je me dis, mais enfin, il est juste à peine passé 9 heures. Le parking était déjà rempli de voitures. Je ne sais pas quel événement, je ne me suis pas concentré là-dessus. J'étais concentré sur le fait d'arriver ici. Et je dis, mais les gens ont du temps, n'est-ce pas? On a du temps pour ce qu'on veut bien. Peut-être pour ce qu'on aime ou pour ce qu'on croit qui va remplir notre existence. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se détendre et jouir des choses que Dieu nous donne. Nous apprécions tous une série de choses de cette vie. Nous aimons tous. Moi j'aime ceci, toi tu aimes cela, toi tu aimes cela. Ça n'est pas interdit. Ça fait partie de l'existence. Mais où est-ce que notre cœur est placé? À quoi est-il attaché? Et ceux qui s'éloignent, peut-être, nous donnent l'illusion d'être heureux. Mais le véritable bonheur se trouve en Dieu. Pourquoi? Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi. Un refuge, c'est parce qu'on a besoin. On fuit quelque chose parce qu'on a des craintes. Et nous pouvons analyser notre existence et voir peut-être là où nous avons des craintes. Perdre son emploi. Peut-être tomber malade. Peut-être avoir une autre difficulté familiale. Un problème de couple. Nous avons des craintes. Mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur. Éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. J'ai le plaisir de pouvoir parfois partager avec des collègues de partager l'Évangile. Aujourd'hui, je ne me contente plus de dire « je suis chrétien, je suis... » Oui, un certain nombre de mes collègues connaissent l'Église parce que quand nous allons manger au restaurant italien, nous passons devant l'Église. Nous sommes à côté du Cirque Royal. Et il dit « Ah oui, c'est l'Église. » Oui, c'est l'Église, oui. Mais ce n'est pas mon hobby, l'Église. Ce n'est pas mon passe-temps. Ça fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, je vais jusqu'au bout, généralement. Lorsque j'ai l'occasion d'avoir une conversation avec un collègue, je parle du salut et du pardon et du péché. Et le psalmiste voit son avenir en Dieu. Il entrevoit l'éternité, il dépasse le quotidien, il dépasse cette vie. Et quelque part, c'est ce qui doit être notre souci, c'est de partager avec les autres frères et sœurs dans l'Église et dans d'autres églises, savoir que en Dieu nous partageons un héritage commun et nous avons cette espérance qui dépasse l'existence quotidienne, mais qui aussi la remplit d'un autre contenu. Soyez remplis de l'esprit, dira l'apôtre Paul. Pas de vin, même si on peut boire du vin, mais quand on remplit avec les choses de Dieu, on a moins de place pour les autres choses qui peut-être nous distrait de cette parole sainte. Alors, quelque part, le psaume 34 peut-être, vous pouvez prendre le psaume 34. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure j'ai pour pouvoir suivre.
À 11h15, il y a les autres qui arrivent.
Oui, mais je veux savoir si on vous arrêtez à quelle heure.
À moins le quart.
À moins le quart, on a un temps correct. Psaume 34, les versets 1 à 16. De David, lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chasser par lui. « Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Quelle magnifique promesse! Quelle sécurité pour celui qui se confie en Dieu. Je ne sais pas où vous pouvez trouver une sécurité plus grande. Chez Volvo, peut-être ? Non. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Et ces biens ne sont pas nécessairement ceux de l'évangile d'abondance, n'est-ce pas ? La bénédiction, oui, Dieu peut nous bénir matériellement, mais les biens riches, les biens spirituels, les biens célestes à venir sont aussi d'une importance capitale. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux? C'est une question à laquelle tous les hommes répondent oui. Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Quelle parole bienfaisante, mais qu'il faut faire nôtre dans le concret de notre vie de tous les jours, dans notre relation avec Dieu. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Elle fait éviter les pièges de la mort, dit Proverbe 14, 27. Attention aux pièges de la vie, ce vers quoi notre cœur naturellement peut être attiré. Et quelque part, la proximité de Dieu nous évite de tomber dans ces pièges. Nous avons besoin de rester vigilants. Pourquoi ces choses ne vont pas de soi? Elles sont le fruit d'un exercice quotidien de sanctification, d'écoute de la parole de Dieu, de prière aussi. James Eli Hutchinson, ce dernier dimanche, à la séance académique d'ouverture de l'Institut biblique, disait ceci: je ne cesse de prêcher à moi-même. Pas prêcher pour les autres aussi, mais prêcher à soi-même. Parce que nous avons besoin d'approfondir la parole de Dieu. Nous avons besoin d'exégèse, comme on dit dans les études théologie. Mais nous sommes tous appelés à approfondir la parole de Dieu pour qu'elle nous aide à nous protéger de l'adversaire qui rôde comme un lion rugissant. Oh, c'est une image. Je vois souvent des lions, mais ce sont ceux immobiles de la colonne du Congrès. Quand je traverse de mon bureau vers l'église, ce que je fais souvent, je vois ces lions. Ils sont impressionnants, mais pas comme Satan qui est beaucoup plus rusé, n'est-ce pas? Nous avons besoin d'être vigilants. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, le goût, c'est le sens qui permet d'analyser la saveur des aliments. Il est lié à l'odorat. Aristote distingue dans les saveurs le doux, l'amer, l'onctueux, le salé, l'aigre, l'âpre, l'astringent et l'acide. C'est moins gai, ça. Les cuisiniers ou cuisinières parmi nous apprécieront. La cuisine est un savant mélange de saveurs pour que quand on goûte le plat, on dit « Ah, c'est quand même, c'est délicieux. » Mon épouse prépare de bonnes choses, mais elle ne prépare pas les carottes aussi bien que ma mère. Elle y met moins de temps aussi, parce qu'elle a moins de temps. Mais ça nous apprend aussi que la bonne cuisine demande aussi du savoir-faire, mais aussi du temps. Aujourd'hui, plus que jamais, les choses du goût sont médiatisées par les émissions de télévision. Top Chef, un dîner presque parfait où la convivialité est importante et où on essaye de satisfaire les invités. Les appréciations des restaurants sur TripAdvisor ou resto.be, site que vous consultez peut-être lorsque vous cherchez un endroit peut-être pour aller manger, les cotations. Ça pleut sur Internet. Pour celles et ceux qui savent préparer de bonnes choses, comme Dawn parmi vous, hein, prépare des gâteaux, et vous les appréciez, puis il y en a d'autres, sans doute dans votre église, comme chez nous. Oui, c'est important. Et nous savons ce que c'est que goûter les bonnes choses. Mais est-ce que lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous cherchons la face de Dieu, est-ce que nous goûtons à toute la richesse de ce qu'il nous donne, de ce qu'il a prévu pour nous, de ce qu'il a non seulement préparé, mais de ce qu'il nous a donné par le pardon de nos péchés, par la libération du fardeau que nous portions sur cet éloignement et qu'il était impossible de réparer, sinon par la croix qui fait ce lien entre Dieu et les hommes, entre Dieu et nous. Ces choses, Dieu les a pourvues dès la fondation du monde. Le plaisir de nous tenir auprès de Dieu, lui qui est fidèle. La parole de Dieu nous invite à apprécier ces choses, mais bien plus encore, comme dans le psaume 34, où le psalmiste se réjouit de la délivrance qu'il a connue. Manifestation de la bonté de Dieu à son égard, aussi à notre égard, ce que nous apprenons par l'Évangile. Il associe cette joie au fait de goûter la bonté de Dieu. Parfois, lorsqu'on est trop occupé, on n'a pas le temps de le manger, est accessoire. C'est vrai, quand on est souvent dans des réunions, parfois on fait l'impasse sur un repas, puis on mange très peu de choses. C'est pas si grave. Pourtant, c'est important aussi de s'asseoir et de prendre le temps d'un bon repas et de l'apprécier avec ceux qui sont autour de la table. Et quelque part, on va se retrouver autour de la table du Seigneur. Oh, ce n'est que symbolique, mais c'est tellement important aux yeux de Dieu de communier sur ce qu'il nous a donné en Christ, de trouver à la fois cette paix et cette joie, d'avoir le privilège de s'approcher d'un Dieu si grand qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle et ne périsse pas. Nous sommes sauvés de la perdition. Dieu nous a permis de nous approcher de lui. Jésus-Christ nous sauve, nous rachète au prix de sa vie. Et quelque part, Dieu ne voit plus notre péché. Quel privilège! Ce n'est pas de la légèreté de la part du psalmiste que de faire allusion au goût. Mais ce n'est pas un signe de superficialité. La louange à Dieu exprime de la sorte. Exprimer de la sorte n'est plus un enthousiasme passager comme peut l'être un repas. Je me souviens d'avoir été manger des beignets place d'Ailly quand j'allais chercher ma petite fille à l'école à boulevard Clovis. Elle dit, on va aller manger des beignets. Oh oui, papy. Et elle a toujours ce souvenir. Et on s'est assis là, place d'Ailly, avec les beignets. Ah, quel délice pour Alice. Et oui, elle s'en souvient, moi aussi, c'était un chouette petit moment. Non, ce n'est pas de la superficialité que de parler des choses qui ont de la saveur. Ça nous donne du plaisir. Cherchons ce plaisir en Dieu. Les humains que nous sommes ont été créés avec le goût et avec toutes sortes de sensibilités. Et c'est parce que Dieu nous a fait tels que nous sommes que nous avons parfois dans la bouche un goût amer. On dit que les choses amères, chicons et d'autres choses, parfois plus amères, sont bonnes pour la santé. Je ne crois pas que les choses amères soient bonnes pour l'Église. Les choses amères existent dans l'Église. Dans le petit schéma que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai parlé des choses qui sont parfois difficiles, qui, c'est le cas de le dire, qui nous restent sur l'estomac, ou qui sont dans notre sac à dos. Un paracommando pourrait très bien vous dire combien c'est dur de porter les dizaines de kilos qu'il a sur le dos, tout son équipement. Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Mais après, quand on est dans la vie chrétienne, quand on vit dans l'Église, on a aussi des déceptions. On a aussi des tristesses. L'Église, c'est aussi la société dans laquelle nous sommes. Même si elle est hors monde, nous restons des êtres fragiles et faillibles. Nous pouvons décevoir d'autres. Nous pouvons être déçus par d'autres. J'ai connu une situation au début de cette année, dans le cadre de l'Église et dans le cadre de mes responsabilités, où je me suis énervé. Je n'aurais pas dû. J'ai partagé avec Samuel ces choses. On a besoin de partager. Mais ce qui se dit parfois dans l'Église est extrêmement difficile, parfois à supporter. Et on a besoin de se décharger sur Dieu et d'être comme le psalmiste, libéré, de trouver sa tranquillité auprès de Dieu lorsque nous avons remis ces choses en ordre avec Dieu et avec peut-être des personnes dans l'Église. Le pardon fait partie intégrante de notre relation d'Église, d'abord de notre relation avec Dieu, mais de notre relation d'Église. Je dois encore dire des choses à une personne en particulier. Je ne vais pas être rancunier, mais c'est difficile. Il faut mettre ces choses en ordre. Parce que ça fait partie de ces choses qui pèsent et qui restent. Et parfois que l'on veut oublier, que l'on met dans un coin, mais elles ne restent pas dans ce coin. Elles restent attachées à nous. Attention de mettre les choses en ordre lorsque Dieu nous montre qu'elles doivent l'être. Et faisons cet effort. Cela nous redonnera de l'enthousiasme dans le service. Mangeons-nous la vie que Dieu nous donne avec de longues dents, comme on dit, ou connaissons-nous cette délectation du psalmiste? J'emploie cette image du chrétien parfois dans l'Église qui ressemble un peu à l'enfant qui est devant son repas, qui n'aime pas les légumes et à qui on dit « finis ton assiette ». Parfois, des chrétiens qui viennent au culte ont cette tête. C'est comique peut-être, mais c'est moins comique lorsqu'il s'agit de chrétiens. C'est moins comique lorsqu'il s'agit de la vie de l'Église. Parfois, nous sommes surpris en étant peu enthousiastes. Peut-être peu enthousiastes parce que peu libérés de certains fardeaux. Goûter selon Dieu, c'est un mets qui se prépare avec les ingrédients que Dieu choisit. C'est Dieu qui nous donne ce qu'il veut bien nous donner. Il donne ceci à l'un, ceci à l'autre. Et je ne dois pas être jaloux de l'un ni jaloux de l'autre. Pourquoi cette épreuve, Seigneur? Nous avons un frère dans l'Église qui est plus âgé et qui dit, mais ce n'est que difficulté sous difficulté. Je ne comprends pas. Pourquoi? Nous n'avons pas toujours l'explication. Nous avons été appelés pour une onction d'huile il y a déjà quelque temps. Qu'est-ce qui change? Jacques dit que l'onction d'huile, c'est aussi l'occasion pour faire le point pour le chrétien sur sa vie, faire le point sur sa relation avec Dieu. La maladie n'est pas toujours le fait d'un péché. Prendre de l'âge, c'est prendre de l'âge. Connaître des mots, c'est connaître des mots de l'âge. Nous étions plusieurs dans le service où je travaille à être de la même année, du même millésime, 53. C'est l'année de la première corvette, je pense. Très beau modèle. Mais c'est moins gai quand on sait que aujourd'hui même, l'un de mes collègues qui a quitté à 60 ans le travail, donc il y a 5 années maintenant, est à sa deuxième récidive de son cancer et qu'il est maintenant en phase terminale. Un autre collègue qui pensait prolonger, comme moi, encore une année de travail, au-delà de 65 ans, est décédé au printemps dernier d'une septicémie. Il avait mal soigné une infection. Il n'est plus là. Oui, c'est difficile parfois. Mais apprécions d'autant plus la vie que Dieu nous donne. Ce n'est pas nous qui choisissons les ingrédients qui constituent notre existence. Et sachons discerner ce que Dieu nous donne. Peut-être on va m'annoncer une bonne nouvelle tout à l'heure, je ne sais pas. Dieu nous donne cela. Ce n'est pas notre fait. Dieu nous donne des privilèges dans l'existence. Combien de vies de travail, c'est cette sphère de travail, combien de personnes encore peuvent dire que leur vie de travail a été une vie constante, linéaire, sans soucis et sans difficultés? Si je vais sur le site de MyPension, vous connaissez peut-être ça, peut-être ceux qui sont proches de la retraite, ou peut-être ceux qui sont retraités ne connaissent pas, mais c'est nouveau sur le site de la pension.be. On On peut voir sa carrière. Et quand je vois ma carrière, c'est une ligne droite, constante. Est-ce qu'on est reconnaissant à Dieu aussi pour ce qu'il nous donne? Il y a des manières d'appréhender la vie aussi qui font que on doit réfléchir sur les choses, prendre des décisions, mais y inclure toujours Dieu dans notre réflexion. C'est tellement important pour tout ce qui concerne aussi notre domaine affectif. Nous sommes des êtres sensibles et affectifs, et ça joue sur notre morale, sur notre santé aussi. On découvre tellement de choses aujourd'hui sur la santé. Mais on découvre aussi que le moral, la paix intérieure, a tellement d'influence sur notre santé. Soyons attentifs à cela. Je voudrais terminer avec vous par quelques principes. Peut-être une réflexion sur notre sécurité en Dieu. Nous avons dans notre association traité d'un sujet difficile sur la prédestination, sur l'appel de Dieu. Quelle est notre réponse? Quelle est notre part? Je voudrais vous faire réfléchir sur ce que dit la parole de Dieu. Jésus-Christ dit celui qui « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mettrai pas dehors ceux que le Père me donne. » Et quelque part, il y a pas mal de passages qui nous donnent cette sécurité en Christ, si nous lui appartenons. Et sans entrer dans ces détails, on n'a pas le temps, ce n'est pas le lieu, mais il y a un élément de sécurité complémentaire. Et c'est important de terminer sur cette note en conclusion. Un élément de sécurité pour nous-mêmes, que nous sommes en Christ, que nous lui appartenons. C'est que chaque fois qu'il est, presque chaque fois les textes que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament et qui parlent de la relation avec Dieu et de l'attachement à Dieu et du salut que Dieu nous donne, il y a une partie du texte qui nous parle des œuvres de la foi. Non pas pour acquérir notre salut, nous le savons, mais comme un témoignage que nous appartenons à Christ et que nous accomplissons les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est extrêmement important de savoir que nous sommes engagés pour le Seigneur. Et je voudrais vous encourager ce matin et vous dire que lorsque nous sommes engagés avec le Seigneur, il nous donne des joies, mais que c'est un témoignage pour nous-mêmes aussi que nous lui appartenons, que nous avons compris tout ce qu'il nous a donné. Il nous a donné des biens spirituels, il nous a donné les arts de l'esprit, il nous a donné une espérance éternelle, il nous a donné la joie de la communion fraternelle pour aujourd'hui. Ce n'est pas seulement pour demain et pour l'éternité. C'est un témoignage aussi pour les autres au sein de l'Église, de voir les uns et les autres engagés. C'est une réalité qui engage et qui emmène dans le service et dans la collaboration. Et nous avons connu la Coupe du Monde de football. Je n'aime pas trop le football. Je ne l'aime pas aussi pour des raisons de blanchiment d'argent et d'autres choses peu agréables. Mais ce qu'on peut apprendre, c'est les individualités. Lorsque des joueurs veulent se montrer, veulent sortir du lot, ils font un jeu individuel. Et c'est pénalisant pour l'équipe. Et on a vu aussi pour notre équipe nationale que leur jeu était plus collectif, que ces personnalités se sont, à certains moments, mieux effacées pour le bien de l'équipe et pour le résultat. Et quelque part, la parole de Dieu, et l'apôtre Paul en particulier, ne nous dit pas autre chose. Il rejette l'orgueil et il dit jouer un jeu collectif. Soyez unis, mais aussi faites-le pour les autres, avec les autres. Et je pense que si nous appartenons au Seigneur, si nous écoutons sa parole, nous serons plus enthousiastes pour saisir les bontés de Dieu et jouer avec les autres ce jeu collectif qui est indispensable au témoignage de l'Évangile, comme un regard que le monde peut jeter sur l'Église, où nous sommes unis en paix et aussi en paix personnellement.